Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Boris Sauvage. Bonjour Boris.
Bonjour Florian.
Je suis ravi de t'avoir à côté de nous. En plus, là, c'est pendant un événement qu'on a fait avec Sage. On est dans des bons locaux qui sont à l'hippodrome Paris-Longchamp. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ton passé. Comment tu es arrivé expert comptable et maintenant VP du Conseil National, un peu le présent et ton futur.
Ok.
Mais juste avant, j'ai utilisé ChatGPT, que c'est beaucoup à la mode actuellement. Et je lui ai demandé, voilà, Boris Sauvage, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que tu peux faire une petite synthèse ? Alors, tu vas me dire si c'est ok ce qui est...
Vas-y.
Boris Sauvage, expert comptable et commissaire aux comptes. Actuellement vice-président du Conseil national en charge des études numériques. Éducation, donc diplômé de l'université de Reims-Champagne-Ardenne avec une maîtrise de sciences de gestion. Carrière, Boris a commencé dans le développement informatique avant de se tourner vers l'expertise comptable. Il a fondé le cabinet Xtremum en 2011. Il a également été président national de l'Annexe et du CGUC. Au niveau politique, actif dans la gouvernance de la profession comptable, il a été élu à plusieurs reprises au sein des instances du Conseil national et est animé et animé plusieurs commissions importantes, donc l'agriculture, je crois.
Exact, ouais, tout à fait, c'est ça.
Un autre à ajouter ?
Écoute, j'ai rien à rajouter, je vais te laisser faire le podcast avec ChatGPT, et puis comme ça, là, il fera tout te dire sur moi. Ouais, c'est impressionnant, non, tout est bon.
Bah du coup, on va aller sur ton passé. Bah, comme tu le sais, c'est pas un métier qui est très sexy, expert comptable. Souvent les enfants disent pas, je vais faire expert comptable en premier. Toi, qu'est-ce qui t'a dit, ça y est, il faut que je sois expert comptable?
Alors, j'ai choisi tard, en fait. Hein. Tu l'as dit, par rapport à mon passé, j'ai travaillé dans l'informatique avant. Mais j'ai eu un déclencheur assez tôt, en fait. Mes parents sont commerçants. Et ils avaient... Alors, pour moi, c'était l'expert comptable, mais en fait, une fois que j'aurais découvert le métier plus tard, je comprendrais qu'elle était chef de mission et pas expert comptable. Elisabeth, qui les conseillait, en fait, sur leur entreprise, ils sont buralistes, donc un commerce de proximité qui les conseillait à chaque étape importante. Et en fait, cette relation entre eux, entre elles, ça m'a toujours impressionné, en fait, cette notion de confiance. Et puis, quand tes parents sont commerçants, le soir, quand ils discutent un peu, quand ils sont à table, ils te parlent, tu vois la confiance qu'ils mettent, en fait, dans cet expert comptable. Et je me suis dit que ce métier, finalement, cette relation, elle était vraiment sympa, et que s'occuper de la gestion des entreprises, je ne savais pas ce que c'était, en fait, l'expertise comptable, en effet. C'était plutôt en gestion d'entreprise. Cette partie gestion d'entreprise, en fait, elle me plaisait. Mais entre-temps, il y a l'informatique qui est sortie. Donc, entre-temps, c'était 93-94, c'était Windows 3.1. Donc, c'était vraiment des choses assez nouvelles. Ça me passionnait, en fait. Donc là, après le bac, j'ai hésité. J'étais candidat dans des DUT GEA et puis candidat en DUT informatique. Et au dernier moment, j'ai choisi la filière informatique et je suis parti dans l'informatique. Donc voilà, et c'est après, en fait, une fois que j'aurai travaillé en informatique, que je vais reprendre la partie spontanée. Une fois que j'ai fait mon DUT informatique, j'ai fait un stage. Alors, c'est assez drôle. Hein. J'ai fait un stage dans une filiale du groupe Danone. C'était sur Reims, c'était les verreries mécaniques champenoises. Donc, ils faisaient des pots en verre, en fait. Ce stage, c'était sur l'intégration de factures électroniques en compta. Voilà. Donc, en fait, déjà, dans les grands groupes, dans la filiale de Danone, ils avaient mis en place des protocoles d'échange UDI sur les factures. Alors, c'était sur des systèmes AS400 à l'époque, mais voilà, j'avais participé avec l'équipe à faire du développement sur de l'intégration de factures électroniques en UDI au sein du groupe Danone. Ce stage, ça m'a vraiment passionné, c'est vraiment très bien, mais j'avais toujours envie de tester la gestion. Donc du coup, j'ai bifurqué. Alors, bon, en fait, je voulais faire de la compta. Donc j'étais candidat pour être en MSTCF, mais en MSTCF, j'ai pas été pris. Voilà. Donc a priori, voilà, j'ai pas réussi à rentrer en MSTCF. Du coup, j'avais fait MSTCF et puis MSG, qui était plutôt orienté contrôle de gestion, et je suis rentré en MSG. Après la MSG, j'ai fait un stage dans une AGC en compta. Ça s'est plutôt bien passé et derrière, on m'a proposé d'intégrer l'AGC. Comme j'avais cette notion finalement gestion et informatique, d'intégrer l'AGC pour mettre en place le nouveau logiciel compta, c'était 99, donc la veille de l'an 2000, et c'était passé d'un système AS400 à un système sur Windows. Donc il y avait pas mal de... c'était une grosse structure, donc il y avait un service informatique qui avait l'habitude finalement d'avoir des logiciels sur mesure. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse à la fois la partie compta et la partie informatique pour faire l'interface entre les deux. Donc je suis rentré comme ça, voilà. Et une fois que je suis rentré, j'ai compris que le contrôle de gestion et la compta, ça n'avait rien à voir. Et quand on m'a dit, fais-nous le cahier des charges pour la partie déclaration de TVA, j'étais un peu tout seul dans mon bureau et je me suis dit, mais où est-ce que je suis parti? Voilà. Donc du coup, je me suis allé, je vais bosser et je reprends. On en parlait à la sortie des MEJ, on en parlait d'aller faire le DECF, à l'époque c'était le DECF. Il y avait un gap un peu important par rapport au MSSF où c'était plus accessible. Et j'ai pris des bouquins de DECF pour comprendre comment fonctionnait la comptabilité.
À côté du travail
En dehors, ouais, le soir. J'ai bossé ça. J'ai essayé de prendre un peu des cours du soir, mais ça m'a vite... c'était pas fait pour moi. Donc j'ai pris des bouquins et j'ai bossé en mes bouquins, en fait, comme ça, pour reprendre toutes les UV qui me manquaient. Donc droit fiscal, toute la partie droit des sociétés, droit social... la partie compta, compta approfondie. En fait, j'avais une équivalence sur le contrôle de gestion et sur le rapport de stage, et le reste, je l'ai rebossé comme ça. Et vu que je bossais cette partie-là, je me suis dit, écoute, t'as bossé, va passer le DECF en candidat libre. Une fois que j'ai eu le DECF, je me suis dit, c'est con, va passer le DESF. Donc j'ai repris, pareil, les bouquins, et puis je suis allé passer le DESF. C'était plus dur de passer le DECF que le DESF. Le gap était beaucoup plus important à récupérer. Et puis DESF, tu dis, allez, on fait le stage et puis on va au bout, on va tenter de décrocher le deck, en fait. Donc, et tout en continuant de l'informatique au sein de la société où j'étais, enfin la GC où j'étais.
C'était pas trop dur justement d'avoir ce côté informatique, façon de voir, même si ça reste des chiffres. Est-ce que c'est simple ce transfert ou au contraire, j'ai à avoir des lacunes parce que j'ai peut-être pas faire ce côté comptable audit et qui m'a... quitte à repousser à faire des études, en fait.
Alors, c'était compliqué parce que il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, tu t'apprenais dans les livres, quoi. Donc en effet, c'était dur. Après, j'avais aussi des personnes où je travaillais qui m'accompagnaient, qui pouvaient me répondre sur mes questions. Donc j'étais pas non plus tout seul. Et c'était plutôt ma façon d'apprendre, en fait. Et j'avais envie de travailler, j'avais pas envie de reprendre des études.
Mais à côté un petit peu d'autodidacte.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui me plaisait, en fait. Mais je l'avais déjà fait sur l'informatique. Avant d'entrer en DUT informatique, j'avais appris à coder en Pascal, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était du Pascal. Donc voilà, j'ai fait tous les langages qui n'existent plus, presque. Mais voilà, donc... et il y a vraiment... c'est ce qui me plaisait, en fait. Ce côté autodidacte, ce côté apprendre par l'expérience, en fait. Faire et ça fonctionne pas et tu refais et tu t'adaptes, voilà, c'est vraiment ça qui me plaisait et du coup je faisais ça. Donc oui, c'était dur parce qu'il me manquait finalement pas mal de connaissances, hein. J'étais super, enfin j'étais super fort, je savais calculer un prix de revient, mais derrière la partie vraiment de compta, de déclaration fiscale, c'était très compliqué. Et du coup le fait de maîtriser l'informatique m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis servi de ça pour aller comprendre comment ça fonctionnait. J'ai étudié les cahiers des charges EDI, des déclarations fiscales, pour comprendre en fait ce qu'il fallait mettre dedans. Et en fait, le fait de comprendre la partie technique informatique m'a beaucoup aidé pour comprendre comment ça fonctionne, pour remplir un formulaire, pour faire une compta, pour calculer un plan d'amortissement, enfin voilà. Et je me suis servi finalement de cette partie informatique pour apprendre la partie compta.
Je me pose une question, donc là c'est quand même, tu as une envie très forte qui t'a motivé. Et c'était quoi cette motivation? Parce que tu dis, tiens, je veux comprendre mon travail en informatique, il faut que j'apprenne ça. Est-ce que tu avais déjà à l'époque dans la tête, je vais être expert comptable?
Non, je ne l'avais pas du tout. Il n'y avait pas du tout de planification d'être expert comptable. J'ai connu le métier, je te disais, par rapport à mes parents commerçants, et ce côté relation me plaisait, mais sans savoir ce qu'il y avait derrière comme métier. Donc, non, il n'y avait pas de stratégie pour être expert comptable. Mais à un moment donné, tu te dis, finalement... je l'ai appris, j'ai bossé dans les bouquins. J'ai peut-être essayé de valoriser ce que j'ai fait en allant passer le diplôme. Donc voilà. Mais il n'y avait pas de stratégie de vouloir aller sur le côté expert comptable.
Bon, en tout cas, tu arrives dans l'entreprise. Tu montes tous les échelons étant collaborateur en informatique principalement. Et puis, tu arrives au DEC. Je pense que le mémoire, ça devait être sur l'informatique.
Le mémoire, c'était comment implémenter une GED open source en cabinet comptable. Et on était, on était un peu précurseur par rapport à ça. Ouais. Et j'étais allé au bout en mettant en place une GED open source qui s'appelait Alfresco à l'époque et toute la partie technique derrière. Ouais.
Ça a été compliqué de faire le deck en même temps que tu étais investi au cabinet ?
Ouais, ça a été c'était lourd en termes de temps, mais j'ai pas trouvé ça compliqué en fait. Je pense que c'est parce que ça me plaisait et le fait que ça me plaise, j'y trouvais de l'énergie en fait. Je m'éclatais à faire ce que je faisais et du coup il y avait un effort mais il y avait pas de sens de l'effort pour moi. C'était bien, en plus ça fonctionnait, c'était chouette quoi. Donc j'ai passé des journées des fois sur faire, je me rappelle avoir passé des journées et puis peut-être même aussi un peu des longues soirées sur du paramétrage de travailler dans l'agricole. Donc dans l'agricole tu utilises ce qu'on appelle le mécanisme des amortissements régulièrement différés en période bénéficiaire. Donc déjà il faut comprendre le truc au niveau de la fiscalité, puis après il faut le coder. Vu que j'avais compris le truc, j'étais en train de travailler sur le logiciel pour refaire finalement le rythme de calcul du plan d'amortissement. Et en fait, j'étais pressé d'arriver au bout, j'étais pressé de voir que ça marche. Donc j'ai passé de longues journées, de longues nuits aussi, mais sans avoir eu l'impression de faire des efforts en fait. Donc ça a toujours été comme ça. Donc des fois on me dit, ouais, mais c'est dur en candidat libre. J'ai pas eu l'impression en fait. J'ai pas de faculté particulière, parce que c'est pas, bon, j'ai un bouquin, je le retiens pas à la première lecture, hein, je suis comme tout le monde, mais c'était ce côté de fait de dire, bah, ça me plaît, je fais ce qui me plaît, et du coup, j'y vais.
Mais t'es quand même bosseur, je pense.
Oui, alors c'est du travail. Oui, c'est du travail. En termes de volume d'heures, oui, c'est du travail, et c'est quelque chose qui me plaît, donc, je l'étais, je le suis toujours, ouais.
Bon, on arrive déjà sur cette partie-là. Moi, ce que j'aimerais savoir tout de suite, c'est à quel moment ils t'ont proposé ou tu as décidé d'être sinon expert comptable? Dans ton cabinet, et tu t'es dit, bon, comment je passe de ce... Allez, je vais peut-être caricaturer ce côté informaticien, maintenant chef d'entreprise, expert comptable.
En fait, j'étais arrivé, je pense, au bout de ce que je pouvais faire où j'étais, dans la façon dont je pouvais le faire. J'avais pris des responsabilités et je passais mon temps dans des réunions, en fait. Et j'en voulais plus. J'en voulais plus et je voulais aller sur le terrain. J'étais diplômé d'expertise comptable et je voulais aller sur le terrain. Et en plus... donc j'avais passé du temps à l'annexe, j'avais présidé l'annexe, je savais ce que je voulais faire, j'avais ma vision, j'étais dans un groupe de 600 personnes, et dans un groupe de 600 personnes, tu n'imposes pas ta vision, tu peux la défendre, mais c'est compliqué. Et moi je voulais partir de la feuille blanche, j'avais envie de créer mon cabinet en partant d'une feuille blanche et de faire comme je le souhaitais, avec la vision que j'avais, et d'expérimenter ça sur le terrain avec les clients. Et donc, j'ai décidé de partir et de créer mon cabinet ex nihilo. Mais dans le groupe où j'étais donc dans le comité de direction, j'étais sur la partie responsable informatique, responsable méthode, mais j'avais aucun client. Bah si, j'avais deux clients, juste pour pouvoir expérimenter, en fait. Et j'avais un client qui était d'ailleurs à 600 km. Mais parce qu'on s'était croisé sur du développement informatique et qu'il voulait que je le suive. Et du coup, ça me permettait d'avoir mon petit laboratoire comptable. Et donc, j'ai dit, j'arrête et je suis parti. Et sans client et sans connaissance, je n'étais pas connu en fait. Localement dans la ville, dans le domaine, dans le système économique, personne ne me connaissait puisque j'étais sur des fonctions support. Enfin, il n'y avait aucune raison. Donc voilà.
Ça t'a pas fait peur? Ça ?
Si, ça m'a fait peur parce que, en plus, je suis parti, si tu veux, en démission. J'ai pas fait de rupture conventionnelle,
d'accord.
J'ai pas eu de licenciement. Donc, à un moment donné, tu dis, bon, bah, t'as ta rémunération qui est confortable, tu viens de faire construire ta maison, et puis tu dis, bah, ok, maintenant j'ai plus de rémunération, je vais aller à la banque, je prends un crédit, puis il faut que ça s'équilibre en 6 mois, quoi. Donc voilà. Après, j'avais la chance aussi d'avoir fait les deux. Je savais que je pouvais aller vendre des missions un peu diverses sur cette partie compétences à la fois informatique et comptable. Donc voilà, je travaille un peu là-dessus. J'ai fait de la formation aussi, puisque quand tu débutes, les organismes de formation cherchent des formateurs. Donc j'avais très bien les bureaux de tabac, parce que mes parents et mon frère sont buralistes. Donc Et j'ai travaillé avec eux, en fait. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'allais le samedi matin faire l'ouverture à 6h30, ranger la presse. Et du coup, si tu veux, c'est quand même plus facile après d'expliquer aux comptables, ben non, mais voilà comment ça se passe dans la vraie vie chez eux, et voilà du coup comment tu fais en comptable. Donc j'avais développé cette compétence-là, et voilà. J'ai mis un an à assumer ma décision de partir et de créer mon cabinet, en fait. Parce que ça fout la truc.
Le socle familial, c'était important, ce moment-là, décisif?
Ah oui. Oui, c'était important parce que quand tu dis, j'arrête, il n'y a plus la rémunération, on vient de faire construire la maison et puis on part autrement. Mais il n'y a jamais eu aucun doute. Quoi.
Tu avais des enfants à cette époque?
Oui, on avait deux filles. Alors, on avait deux filles, mais on était un jeune couple reconstitué. Donc, c'était aussi une aventure qu'on voulait vivre ensemble. Et ça s'est fait aussi un peu de façon un peu compliquée. Quand je suis parti, mon départ n'a pas été compris. Donc ça s'est fait de façon un peu compliquée. Sauf que ma compagnie, elle travaillait avec moi, en fait.
D'accord.
Donc, c'est elle qui a payé. Peut-être partie là. Donc, voilà. Mais ça fout la trouille, mais j'ai jamais regretté, en fait. Et ça m'a vraiment... J'ai toujours adoré faire ça, en fait. Et je le referai.
Ça t'a permis un petit peu... Je vais sauter une question, c'est de te dire... Ces événements, ces parcours, c'est ça qui t'a donné la force ou qui te fait prendre du recul maintenant?
Ouais, je pense que oui. Oui, c'est ça qui a demandé, c'est ce que tu vis, en fait, qui te construit. Je me rappellerai, je pense, toujours de mon entrée en MSG. C'était un concours dont tu avais un écrit, 2 euros. Et du coup, je m'inscris à l'écrit. Inscription à Bac+2, pas de... Rien du tout. MSCCF, ils voulaient un peu de comptable, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de moi, mais MSG, rien du tout, il suffisait d'avoir un peu de +2. Bac+2, DUT informatique, je m'inscris, je passe le concours écrit. Voilà, j'ai passé un sale moment parce que c'est quoi une banque centrale? Moi je connais les piles TCP/IP, je connais les principes d'algorithme, je peux écrire un peu de C, mais la banque centrale, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc du coup, l'écrit, je me suis dit, c'est quand même mal parti, on s'est mal barré. Et puis je reçois une convocation pour me dire, viens passer les euros. Bon. J'ai dit quand même deux fois le truc parce que, je me suis dit, je trouvais que les questions étaient difficiles, mais j'ai dû répondre au pif et ça a bien collé, . Et là, premier oral, un oral d'anglais, économique. Donc là, c'est pareil, j'ai passé vraiment un sale quart d'heure. La prof qui était là, qui faisait le jury, me dit, mais en fait, moi, je viens de l'UT informatique, donc si vous voulez qu'on parle de principe algorithmique en anglais, je veux bien, mais là, au côté économique, je n'ai pas le vocabulaire, je peux pas, en fait, c'est pas mon truc. Voilà, et après, donc, on avait entretien de motivation avec le responsable de la section. Et donc, il y a quand même des rencontres qui te forgent un peu dans la vie. Et là, lui me dit... Bon, comment ça s'est passé en anglais? Je pense qu'il avait eu le retour de la prof en disant, écoute, c'est quand même... En anglais, il a pu nous dire peut-être bonjour, au revoir, le reste, rien du tout. Donc je lui ai dit, j'étais franc, c'était quand même assez catastrophique. Moi, je viens de l'IET informatique et l'anglais économique, j'ai aucun vocabulaire. Donc, je peux vous conserver une phrase, mais à part paraphraser le texte, a priori, c'est quand même pas... Ça a été très compliqué. Oui, c'était assez compliqué. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire, en fait? Il dit, moi, je voulais vous voir entretien motivation parce que je ne comprends pas ce que vous faites. Je dis, moi, j'ai toujours aimé les deux. Donc, j'avais vous laissiez sur un Bac+2. J'ai vraiment envie de faire de la gestion d'entreprise et je veux vraiment découvrir cette partie-là. Et donc, il m'a avoué qu'en fait, ils avaient mélangé deux copies et qu'ils ne savaient pas. Il me dit, il y en a un qui était totalement nul. Il dit, maintenant, je pense savoir qui c'est. À l'écrit, on ne savait pas. Donc, on s'est dit, ça jouera l'oral entre vous deux, en fait. Donc, on vous a convoqué avec les autres, en fait, tous les deux. Et là, il me dit, finalement, j'ai jamais eu d'informaticien dans ma formation. Et moi, j'aime bien les trucs un peu expérimentaux. Vous êtes mon rat de laboratoire. Et puis, je vous prends. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi, en fait. En fait, il m'a donné ma chance. Et c'est ça qui m'a permis, d'ailleurs, de rebondir et de repartir sur la compta. Donc, ça a tenu à ce moment-là avec lui. Ça n'aurait pas été lui, ce serait peut-être pas passé. Et j'en ai reparlé avec lui à la fin, puisque j'ai pas mal morflé pendant le début de formation pour rattraper un peu le retard, hein, parce que quand je suis arrivé, c'était un peu compliqué. Et lui était, il trouvait que c'était sympa, il s'était bien amusé. Il a dit que voilà, donc ça lui avait bien plu aussi. Donc, c'était une belle expérience.
Est-ce qu'il y a aussi des mentors qui ont fait que maintenant, Je vois comme ça, je pense comme ça, ou je me dis des fois, faut que j'aille un peu dans ce sens-là.
Non, j'ai pas de, je suis pas quelqu'un qui fonctionne forcément avec un mentor en
fait. Ou des inspirations.
Par contre, il y a des personnes qui ont été assez clés en fait, ouais. Par rapport à, je te disais tout à l'heure, le métier en fait. Ce qui m'a plu, c'était de voir mes parents avec leur comptable, Elisabeth. Et en fait, c'est elle qui m'a appris à travailler. Donc, du coup, quand je fais mon stage, sorti des MJ, je lui dis, j'aimerais bien faire mon stage avec vous. Je voudrais bien venir. Donc, elle venait de changer de cabinet parce que ça n'allait pas marcher où elle était. Elle me dit, je vais essayer de voir si je peux. Voilà. Le stage qui vient passer, il me propose de m'embaucher sur la partie notamment mix informatique. Mais je demande à pouvoir travailler un peu sur la compta aussi. Et j'aimerais bien travailler avec elle. Et c'est elle qui m'a formé sur la partie compta. Et ouais, ça forge en fait. Et quand je vois franchement tout ce qu'elle faisait avec mes parents, et quand je vois des fois ce que je fais avec certains clients, je me dis que j'ai bien été formé, mais qu'en plus elle est en avance, quoi. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était assez, ouais, peut-être un peu magique, je sais pas. Enfin, tu as quelqu'un qui dit putain, ce métier-là il doit être bien, et en plus c'est cette personne-là qui va te former. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance, ouais, par rapport à ça.
Maintenant, on est devenu expert comptable, et là on se dit bon, le cabinet il tourne. Je vais partir en politique, même si au départ, il y avait une présidence nationale, donc il y avait quand même une appétence de partager. Comment on fait pour arriver jusqu'à vice-président du Conseil national ?
Alors, je crois que j'ai toujours aimé partager mon temps au niveau des groupes. Donc, j'étais président de la NAITS. Après, je me suis investi au CGEC. J'étais président du CGEC aussi. Ce côté partage, en fait, il me plaît. Ce côté implication au travail pour les autres, c'est ce que je faisais, en fait, quand j'étais... responsable métier dans le cabinet où j'étais, finalement c'est aussi ce que je faisais. Donc vraiment, c'est ce côté qui me plaît. Et du coup, quand tu es président du CGEC, on te demande si tu veux pas aussi venir sur une liste au conseil supérieur à l'époque, qui est maintenant le conseil national, et tu mets le doigt et dans l'engrenage, et en fait il y a besoin de beaucoup de personnes pour faire fonctionner les instances, et du coup tu te prends au jeu et tu es dedans. Donc ça, c'était la partie pour le mandat. C'est là où j'ai après pris la commission agricole, ouais. Et puis je me suis investi aussi au niveau du syndicat, mais j'ai souhaité à un moment donné, finalement, mettre un peu en retrait par rapport à tout ça. Et finalement, je n'ai pas fait ce que je voulais faire, puisque derrière, j'ai pris un poste de vice-président sur la partie études numériques, qui est un sujet un peu d'actualité. Donc, c'était pas prévu, tu vois, tu me demandais expertise comptable, vice-président, c'était pas prévu non plus. Quand j'ai échangé avec Cécile Saint-Michel et qu'elle m'a parlé de son projet, moi ça m'a plu, j'ai adhéré à ses valeurs, donc je l'ai soutenu. Puis après, quand elle m'a rappelé, qu'elle me dit mais j'ai besoin de monde et j'aimerais bien que tu participes à l'aventure, fasses partie de l'équipe, je me suis dit que c'était une chance qu'il fallait saisir, quoi, en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé vice-président du Conseil national.
Est-ce qu'il y a eu dans le passé des grands défis ? Donc il y a eu l'ouverture du cabinet. Est-ce que tu en as eu d'autres aussi qui t'ont permis aussi d'avancer et de tirer expérience ?
Alors des grands défis, il y a eu la partie ouverture du cabinet. C'était important parce que j'emmenais toute la famille aussi. Donc il fallait quand même, tu sais, à un moment donné, quand tu changes de formation, quand tu as 18 ans, tu dis ça marche pas. Moi je m'étais dit, MEG ça marche pas, j'irai retourner faire une licence informatique de gestion, et puis voilà. Et là, c'est un peu différent. Donc, ouais, le défi du cabinet était important pour moi. Et puis, je savais ce que je voulais faire. Je savais le cabinet que je voulais faire. Et je voulais vraiment réussir cette partie-là. Autant, à certains moments, les choses que j'ai faites, c'était pour... parce que l'occasion s'est présentée, j'ai voulu le faire. J'ai eu la chance de pouvoir changer d'orientation, etc. Donc, ça s'est fait. Autant là, le cabinet, je savais ce que je voulais faire. Je savais ce que j'avais écrit sur ma page blanche, je voulais aller. Donc oui, c'était vraiment un grand défi par rapport à ça. Donc, quand j'y repense, je me dis que le fait d'avoir repris les cours du soir, enfin les bouquins pour repasser le ECF, ça devait être aussi un défi. Mais je ne l'ai pas vécu comme ça à ce moment-là parce que c'est un truc qui me plaisait, que je faisais par plaisir. Donc, mais le cabinet aussi, je le fais par plaisir. Donc.
Ça n'a pas été trop lourd au départ. Enfin, il y avait quand même des responsabilités de se dire, comme tu as dit tout à l'heure, je me laisse un an.
Si, tu te mets une pression, tu te fais ton prévisionnel, tu l'actualises tous les jours, et puis après tu te rends compte que finalement ça marche, que ça fonctionne, que c'est parti et que c'est juste qu'il faut un petit peu de temps au départ et derrière ça part et une fois que ça a démarré, c'est parti. Et en plus, comme c'est quelque chose dans lequel je me suis éclaté, ça a été vraiment un plaisir de le faire, quoi.
On va aller sur la partie présent. Moi, je voudrais savoir, À quel moment de ta vie tu t'es dit, bon, bah ça y est, professionnellement, quand même, c'est bien, j'ai ouvert le cabinet, je suis vice-président, ouais, être fier de soi, quoi, en gros.
Alors, ouais, le fait que le cabinet fonctionne, etc., ça apporte quand même un côté de fierté. On est 12 personnes, tu dis, bon, ben voilà, finalement, ce que tu avais imaginé, comment ça pouvait fonctionner avec les clients, comment tu pouvais gérer. Donc ça a fonctionné, donc c'est plutôt chouette qu'en fait, voilà. Donc, et puis, peut-être une anecdote, tiens, récemment, j'ai vraiment à cœur de toujours partager ce côté gestion, et je pense que d'avoir eu cette formation en contrôle de gestion, ça a ancré aussi des choses importantes chez moi dans mon approche du métier. Et j'ai un mandataire judiciaire qui m'appelle, qui me dit écoutez, on a un dossier où on pense qu'on peut redresser la boîte, mais c'est vraiment le bazar dans la compta, ils ne trouvent pas de cabinet. Est-ce que vous voulez bien leur donner un coup de main et on pense que vous pourriez les aider? Et là, quand tu te dis que la personne de CRH commence à t'appeler pour dire bah tiens, je pense que vous pouvez l'aider à redresser sa boîte, c'est là où tu te dis bah, je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, quoi. Donc, il en est sorti, on a sorti un plan. La mandataire me dit je savais qu'il y avait quelque chose, mais il fallait trouver les personnes qui permettent de l'aider. Et en fait, on en a reparlé au dur. Et c'est chouette, en fait, d'avoir pu aider ces personnes-là. Voilà, donc il y a une aventure humaine aussi importante par rapport à ça. Et là, quand on te dit ben, est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus parce qu'on pense que vous avez les compétences pour, tu dis que tu as réussi à faire reconnaître tes compétences.
Il y a une chose que je me posais comme question pendant que tu es en train de faire l'interview, c'est est-ce que des fois, t'as pas eu le sentiment de manquer de compétences en compta, que tes confrères te voient comme un informaticien plutôt que expert des fois?
Si, c'est marrant ça. Au début, les informaticiens me voyaient comme un comptable et pensaient que je pipais en informatique. D'ailleurs, des fois aussi, maintenant aujourd'hui, d'ailleurs, c'est drôle des fois de rentrer sur de la technique avec certains qui te disent mais t'es expert comptable, tu comprends pas ce que ça veut dire. Oui, ouais, on va regarder quand même deux trois trucs ensemble en détail, mais. Et les comptables te disent non mais toi t'es ok en informatique, voilà, tu te débrouilles, mais tu connais pas la compta, tu connais pas les trucs. Et quand tu fais des formations à des comptables pour expliquer le logiciel comptable, le fonctionnement, et que qu'on te dit ben non mais il y a un bug dans le logiciel parce que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça se calcule, etc., et tu dis ben en fait non, il y a pas de bug, c'est juste que ça se calcule bien comme ça, que le calcul est juste, et tu dois démontrer le calcul d'amortissement, trucs régulièrement différés, etc. Enfin, par exemple, hein, mais tu dois démontrer. Mais en effet, le fait d'avoir ces deux compétences-là, en fait, tu as toujours l'autre qui te dit que tu es de l'autre côté, quoi. En fait, tu n'es jamais dans un. Et tu n'es jamais dans le bon côté, quoi, en fait. Donc, voilà. Mais je pense que j'ai toujours fait attention à pas être. Enfin, ce niveau de compétence, à pas être présomptueux, à pas. Je pense qu'il faut être humble sur ses compétences et du coup j'hésite jamais à retourner la documentation, à vérifier un truc, et même des fois quand je suis certain à vérifier, parce que voilà, il y a vraiment je pense qu'il faut vraiment être humble sur la partie des compétences.
Et ça te permet aussi d'avoir des visions transverses des fois quand tu réfléchis?
Ah oui, c'est sûr qu'à un moment donné t'as vraiment une aujourd'hui ça m'aide vraiment au quotidien sur pas mal de sujets, ouais, d'avoir cette vision transverse. Ouais.
Vice-président des études numériques, je pense que ça doit plutôt servir.
Ah oui, pour ça, oui, parce que tu vois, à un moment donné, tu comprends, tu sais comment est la partie, comment est le back-office, tu sais que c'est possible, tu sais que c'est pas possible, tu vois les limites, tu vois les enjeux, tu dis, bah, tiens, si on pousse un peu par là, on pourra avoir ça, donc ouais, il y a ce côté.
Et au niveau de l'organisation? Comment tu t'organises au niveau de l'emploi du temps entre, bah là on sort de la période fiscale, il va falloir commencer à préparer, si je me trompe bien, le congrès, même tu dois travailler depuis un petit moment dessus.
On est déjà dessus depuis un petit moment, ouais, ouais.
Comment tu fais pour faire tout ça? Parce qu'en plus ton cabinet il n'est pas parisien.
Non, je suis en province, je suis allé en Champagne, à côté de Reims, ouais.
Donc il faut organiser les déplacements aussi, donc ouais. Explique-nous la méthode magique, quoi.
Ah, il n'y a pas de méthode magique, hein. Je suis désolé. Des fois, ça relève même de la survie en termes d'organisation d'agenda. C'est assez compliqué, mais j'ai la chance un peu partout d'avoir des équipes avec qui c'est possible. J'ai une belle équipe au cabinet. Ça ne fonctionne pas tout seul. Et Alors, l'équipe a besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de voir les clients, donc j'ai besoin d'être au cabinet. C'est vraiment quelque chose. On est 12, hein, tu sais, ça fait une petite équipe. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce côté proximité, cette relation avec les clients. Donc voilà, je fais vraiment passer du temps au cabinet. Pour faire entrer tout dans l'agenda, bah déjà, tu commences à rallonger un peu tes journées, tu rallonges tes semaines, tu prends un peu sur le week-end ou beaucoup sur le week-end. Mais d'un autre côté, tu vis des moments quand même assez formidables et tu te dis, bah, OK, le congrès, c'est sur le numérique. Quand Cécile me dit, bah, ce serait bien que tu participes et tu te dis, bah, oui, mais en fait, c'est les sujets qu'on travaille depuis 2 ans. Et là, on peut en reparler en plus au congrès. Donc, c'est une année très chargée. Mais je pense que je m'éclate en fait dans tout ce que je fais. Je pense que c'est ça la méthode. C'est vraiment d'avoir de te faire plaisir dans ce que tu fais. Et du coup, voilà, tu un samedi matin, prendre un dossier et sortir un bilan ou faire une étude prévisionnelle pour un client. C'est quelque chose qui me plaît à faire. Donc en fait, j'ai pas l'impression de bosser, si tu veux. Enfin, c'est du boulot. Je dis pas que j'ai pas de loisirs, etc. J'ai pas qu'à un moment donné, je me dis pas, j'en ai marre des déclarations de revenus. J'aimerais bien faire un tour de moto, mais en fait, ça me plaît. En fait, mon métier me plaît. Ce qu'on fait au niveau du Conseil national, l'ambiance qu'il y a, une super équipe au sein du Comex, sur des horizons politiques différents, en fait. On a des idéologies, il y a des socles quand même, il y a des choses différentes. Et en fait, on arrive tous à travailler ensemble et on a une superbe équipe et tous les projets avancent et on s'entraide et c'est vraiment chouette. Donc, tu vois, vivre tout ça à chaque fois, tu te dis, bah, c'est top et c'est ça qui te donne l'énergie de retrouver un peu de temps dans ton agenda, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du congrès ? Pour nous, un congrès, c'est un événement de 3 jours, donc ça se prépare normalement assez vite. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Je pense que ça doit se préparer un an avant. Quel investissement ça te demande ?
Le congrès, c'est une consommation pendant 3 jours. Alors, je pense qu'après, il y a une digestion pendant quelques mois derrière, si on veut vraiment mettre en place, et on pourra en reparler par rapport à ce qui est proposé cette année, mais c'est une préparation d'un an. C'est une préparation d'un an, c'est une grosse équipe, il y a du monde, hein. Ça mobilise l'ensemble des permanents du Conseil national, ça mobilise les équipes de CS, c'est une superbe équipe, on a aussi des renforts extérieurs avec des consultants, parce qu'en fait, au final, pendant 3 jours, tu ne vas avoir finalement, tu as l'essence d'un an de réflexion, en fait. Ce qu'on sort pendant 1 heure, mais on y a passé énormément de temps. Tu vois, sur le titre, on a passé beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment que le titre, que tout le monde comprenne, que ça apporte en fait, que ça porte les valeurs, que ça fasse passer les messages. Chaque élément, c'est tu dis pas, bah, le titre, allez, on en met un, on demande à ChatGPT. On s'est servi de ChatGPT, bien entendu, pour voir un peu. Mais comme toute la partie créative, c'est vachement bien pour ça, ChatGPT. Donc voilà, mais... Et c'est énormément de travail, en fait. C'est beaucoup de réunions. On s'est réparti le rôle. On est 4 rapporteurs. Je pense que c'est important. C'est un an de travail, quoi. C'est un an de travail pour 3 jours de consommation.
Tu donnais ton avis sur, je ne sais pas, l'organisation intérieure, sur le choix des ateliers à tel moment ?
Alors, les équipes sont formidables par rapport à ça. Tu as le droit de tout dire. Tu as le droit de tout demander. Parce que les rapporteurs, c'est ce qu'on leur... ce qu'on leur offre, en fait, de pouvoir tout dire, tout demander. Après, il y a des contraintes. Et les GIP disent, bah, ça oui, ça non. Nous, on a cette contrainte-là, on a ces obligations-là. Il faut les écouter parce qu'elles savent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et des fois, tu penses que tu as l'idée du siècle, mais en fait, il y a déjà quelqu'un qui l'a eu en toi, c'était un bide. Mais c'est normal et il faut servir de l'expérience. Voilà, donc on a vraiment une carte blanche. Quand on arrive au départ, on a vraiment une carte blanche sur la thématique. Du coup, la forme s'aligne sur la thématique, sur l'organisation. Voilà, donc on peut vraiment tout faire. Mais on est aussi conseillé par les équipes, accompagné, et ça, c'est chouette, quoi.
Allez, on va partir sur une question, moi, qui est importante. C'est quel conseil tu donnerais à la nouvelle génération pour pouvoir faire ce métier d'expert comptable ?
Alors, moi, je pense qu'il faut faire ce qui te plaît. Le métier d'expert comptable, tu peux le faire de mille et une façons, en fait. tu peux être un pro de la technique, hyper pointu, tu prends un sujet et tu es la référence française, européenne, internationale de ce sujet et tu y vas et tu t'éclates dans ce rôle technique. Et puis, tu peux avoir quelqu'un qui va être différent, qui va dire, ben non, moi, ce qui me plaît, c'est le côté management d'équipe. Et puis, quelqu'un d'autre qui va dire, moi, ce qui me plaît, c'est la conquête client. On a mis le métier dans notre métier. Donc, pour la jeune génération, c'est vraiment de comprendre ce qui leur plaît et d'aller dans ce qui leur plaît. Parce que c'est comme ça, ça fait une trace, comme ça qu'ils arriveront à prendre du plaisir et du coup à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment d'aller sur ce qui leur plaît et de pas t'enfermer dans un carcan. C'est pas parce que tu es expert comptable que tu dois connaître tous les articles du Code général des impôts par cœur. En fait, il y a des outils pour ça. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a encore plus d'outils pour ça. Si c'est pas ton trip, c'est pas grave, tu y arriveras quand même. Donc, faut vraiment. Il y a mille et une façons de le faire. D'ailleurs, même un gars qui a commencé avec l'informatique qui finit expert comptable. Donc, tu peux vraiment y arriver. Donc, et il y en a d'autres aussi qui ont fait ça. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de le faire, comme ils ont envie de le faire et qu'ils s'accrochent à ça.
J'ai une question qui n'était pas prévue, qu'on a rajoutée avec Frédéric, du coup. C'était que tu me donnes la définition, ta définition de c'est quoi un expert comptable, comment tu le définis et d'après toi, quelle est sa mission maintenant pour les clients?
Alors, je pense que chacun aura sa définition. Parce que ma définition, elle est comment moi je veux être. Tu peux avoir une personne qui va dire qu'un expert comptable, c'est un super technicien. C'est pas ma vision à moi. Ma vision à moi de l'expert comptable, c'est l'accompagnant du dirigeant. C'est vraiment ce côté-là. Et dans toutes ces dimensions, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit sur la partie personnelle, alors sans aller faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Hein. Ouais, je peux faire un contrat de mariage, mais en tout cas, parler de ces problématiques-là aussi, parler des problématiques de retraite, parler des problématiques de protection de la famille en cas de décès, c'est vraiment ce côté accompagnement. Et moi, je trouve que je réussis mon métier d'expert comptable avec mes clients quand ils n'hésitent pas à me poser une question, enfin, dès l'instant où ils ont une question, qu'ils aient le réflexe de me passer un coup de fil ou un SMS. Donc moi, la définition de l'expert comptable, c'est un accompagnant du quotidien du chef d'entreprise, vraiment.
Merci pour ce côté présent. Et là, on voudrait apprendre un petit peu plus de choses sur toi, sur la partie future. C'est quoi tes projets sur l'année, même si on l'a un peu évoqué?
Alors là, sur l'année, j'ai plusieurs projets sur l'année. Donc forcément, il y a le congrès, on en a parlé, donc il y a du travail. Au niveau du rôle de vice-président chargé d'études numériques, il y a la facture électronique. On passe beaucoup de temps et moi, j'ai vraiment à cœur qu'on avance dès 2024. Donc, on fait énormément de choses au niveau du Conseil national. Et pour le coup, toute l'équipe du COMEX, la présidente, appuie et suit par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Il y a la partie data IA aussi parce que c'est quand même un moment où tu as le côté, la croisée entre mes deux métiers, mes deux compétences. Data, IA, en expertise comptable, c'est l'informatique et la compta. Et du coup, j'adore, quoi. Donc, j'ai vraiment cette partie-là où je veux travailler dessus. Et puis, je veux transformer mon cabinet. Est-ce que c'est parce que je travaille dessus pour préparer le congrès ou quoi? Mais je veux vraiment faire changer mon cabinet, redéfinir mon projet, voir ça avec mes équipes, développer des nouvelles missions. Je veux sortir. On a passé une période fiscale qui était encore difficile, je trouve, et je veux arrêter un peu avec cette partie-là. Alors, tout le monde dit ça tous les ans, puis finalement, on n'y arrive pas, mais j'ai vraiment envie là, de changer par rapport à ça. Et donc, j'ai le projet aussi de transformer le cabinet, peut-être parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est là et que j'ai aussi envie d'une étape d'après. Voilà, donc c'est ça mes projets pour l'année.
Est-ce que tu sens qu'il y a une tournure là actuellement avec la partie, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle et facture électronique?
Je pense que ça impacte les cabinets. Je pense que ça impacte les cabinets et on est en plein dedans et il faut vraiment y aller. Là, j'ai prévu, bon, là, c'est la période fiscale, c'était pas forcément le moment, mais je vais former toutes les équipes sur le ChatGPT. Ouais. Il faut vraiment y aller et aussi pour qu'on découvre, en fait. C'est un outil. C'est un outil dont on n'a pas encore cerné tout le potentiel, qu'on n'utilise pas à 100%, et je veux qu'on puisse gérer cette partie-là. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment notre quotidien, et on est vraiment dedans aujourd'hui. Ouais.
Là, on ressent l'informaticien qui a envie d'aller un peu voir
oui,
comment ça
plus,
se passe.
Non, mais en plus, j'adore ça. Enfin, voilà, c'est de la gourmandise presque. C'est voilà, donc ouais.
Et après, Boris Sauvage, il fait quoi dans 10 ans?
Dans 10 ans, je ferais peut-être ce que j'avais prévu de faire là. Dans 10 ans, je serais sur ma moto, moi. Je sais pas spécialement ce que je ferai dans 10 ans. Je sais que dans 10 ans, je serai toujours dans mon cabinet parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais aussi que j'ai envie de prendre du temps, me faire plaisir. Je te parlais de moto. C'est vraiment une passion que je... Bon, forcément, tu me dis comment tu fais dans le calendrier. Tu passes un peu moins de temps sur certains plaisirs, par exemple. Voilà. Mais donc il y a vraiment cette partie-là. Après, j'ai pas de... J'ai jamais eu de stratégie de plan à long terme. Je fonctionne pas comme ça. Tu me disais, t'avais voulu être expert comptable. Non, j'y suis. Je savais que je voulais bosser dans cette partie-là, mais sans être vraiment très précis. Donc voilà. Donc où je serai dans 10 ans, je sais que je serai toujours dans mon cabinet. Voilà. Donc ça c'est certain. Ouais.
Et tu seras toujours dans les instances un petit peu. Tu voudrais ralentir ou aller plus haut, peut-être?
J'ai pas de plan, j'ai pas d'interdit, j'ai pas de...
C'est au projet, quoi.
Ouais, c'est au projet, puis c'est aussi à un moment donné, au moment où tu te sens, tu vois, je pense que il y a un côté vraiment... il faut qu'il se passe quelque chose, en fait. J'ai besoin d'un carburant, j'ai besoin d'un côté presque... Enfin, tu vois, t'as vraiment le côté, tu te dis, il y a une alchimie entre le moment présent et ce que tu as envie de faire, en fait, et tout ça permet de réussir de le faire, donc voilà, c'est aussi cette partie là donc j'ai pas de stratégie. Est-ce que je serai moins dans les instances, est-ce que j'y serai plus, j'ai rien planifié, en fait, donc voilà.
Je te remercie. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, avant de finir l'interview, je te propose de faire un jeu. Ça s'appelle Confession intime, pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître. Donc, je te donne des questions et tu vas juste me répondre par plus ou moins.
D'accord. Okay.
Alors, au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine?
Plus.
Au niveau du cercle social, est-ce que tu as plus ou moins 10 amis proches?
Moins.
Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par jour?
Moins.
Est-ce que tu prends
c'est
plus
chance,
ou moins
ça.
De 5 secondes?
Ça, c'est une chance de
ça,
pas beaucoup dormir.
Ça, c'est sûr. On peut faire encore plus de dossiers.
Oui, ça... Non, mais en fait, c'est... Oui, c'est... tu dis par rapport au temps, mais à un moment donné, tu as aussi la chance de dire, voilà, tu sais que t'as pas... tu récupères vite et que du coup, tu te fais plaisir. Alors, soit tu fais autre chose ou tu te fais plaisir, mais voilà, tu n'es pas obligé de faire des dossiers. Tu peux
tu faire de la moto.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est aussi une... ça fait partie des chances que tu peux avoir, quoi. Ouais.
Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines par an de congé?
Moins. Mais je prends des week-ends pour aller faire de la moto. Je ne sais pas si ça compte.
Si, ça compte.
Alors, plus.
Et au niveau de la retraite, est-ce que tu as prévu de la prendre plus ou moins de 65 ans?
Plus. Je pense que... Ouais, plus. Tu as dit un mot, donc voilà. Mais en fait, c'est... Ce que je fais, en fait, ça me plaît. Donc, je ne me vois pas arrêter, quoi. Ce sera probablement différent, mais vu que ça te plaît, tu te dis... quand on dit, tu bosses le week-end. Ouais, enfin, je bosse... je ne sais pas si c'est vraiment un boulot, ce que je fais. Donc, voilà. Du coup, j'ai pas prévu d'arrêter tôt.
Écoute, on te remercie.
Merci à toi, Florian.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.